ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2 MHz de la bande FM. C'est la Voix du Mag qui commence aujourd'hui, une émission qui va parler de prostitution, de travail du sexe, de santé et de droit. Mais pas que, avec nous dans les studios, June qui est ici et maintenant pour échanger autour de Griselidis, une association de santé communautaire avec et pour les travailleurs, travailleuses du sexe. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Avec plaisir, ça va ?
Ouais, ça va, tout va bien.
Tu veux pas avoir de la tisane ?
Non,
toujours pas.
Toujours pas, merci.
Avec plaisir. Donc Griselidis, c'est une association donc de santé communautaire, paritaire, pluriel, pluridisciplinaire et féministe, avec et pour les travailleuses, travailleurs du sexe. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur chaque qualificatif, en fait, qui détermine et qui donne un peu l'idée, l'identité de l'association Griselidis, parce que c'est important. Ça n'a pas été choisi par hasard. Donc, vous êtes pour, je dirais, un concept de santé communautaire.
Oui, tout à fait.
Un peu comme la casse santé, peut-être, je ne sais pas.
Oui, un petit peu. Après, disons que les origines de Griselidis, de l'association, sont un peu autres. C'est-à-dire que la notion de santé communautaire est arrivée en France, en tout cas avec l'épidémie du VIH dans les années 80, quand les pouvoirs publics en fait, sont retrouvés démunis face à cette épidémie qui touchait les communautés, on va dire, les plus marginalisées, la communauté gay, les injecteurs de drogue, etc. Et en fait, à un moment, c'est les communautés elles-mêmes qui ont commencé à dire en fait, nous, on est les plus à même de définir les stratégies de prévention qui vont être adaptées à nos réalités de vie, à nos pratiques, etc. Et pour les travailleuses du sexe, c'était un peu la même chose. Et donc, dès le début des années 90, il y a les premières associations de santé communautaire pour les travailleuses du sexe qui ont été montées, notamment la première qui était à Paris en 1990, qui était le Bus des Femmes. Et dans cette vague-là, se sont montées plein d'associations. Donc à Lyon, il y a eu Cabiria, il y a eu Autre Regard à Marseille, il y a eu Arap Ruby à Nîmes et l'association Griselidis à Toulouse en 2000. Et voilà. Et depuis, il y en a eu d'autres qui se sont montées. Donc c'est vraiment dans cette continuité-là sur la question de la lutte contre le VIH, parce que nous, c'est une de nos premières missions et c'est de dire qu'à un moment les travailleuses et travailleurs du sexe sont les plus à même de définir leur propre stratégie de prévention. C'est pour ça que dans l'équipe salariée il y a à peu près la moitié des salariés qui ont l'expérience du travail du sexe, que ce soit dans la rue ou sur internet, que ce soit une expérience actuelle ou passée. Et pareil, dans le CA de l'association, il y a une parité, enfin, il y a
voilà, c'est le paritaire, là, pour le coup.
La présence de travailleurs et travailleuses du sexe.
Ouais, et puis ce côté, en fait, que la communauté, en fait, qu'identifiait comme responsable et ennemi, finalement, la solution vient de ce qu'on détermine comme étant...
Comme la communauté.
Ouais, comme... La communauté, c'est quelque chose de positif.
De positif, c'est aussi là où on peut trouver les ressources, c'est aussi là... Voilà, c'est plein de choses. Et il y a, en plus, sur le communautaire, il y a une partie de l'équipe salariée qui a l'expérience du travail du sexe, mais il y a aussi une partie de l'équipe salariée qui a l'expérience de la migration et qui vient, qui est issue des communautés majoritaires qu'on reçoit, et qui permet aussi de faire ce lien-là avec des choses. Moi, en tant que Français, je vais pas comprendre ou je vais pas être... Il y a des choses que peut-être je vais être maladroit ou des choses comme ça, et en fait d'avoir des collègues qui ont cette expérience de la migration, ça va me permettre de comprendre des choses et d'être plus adapté quand je m'adresse à des personnes qui sont pas françaises, quoi.
Et dans la précision de la santé communautaire, j'ai découvert un terme qui est la méthodologie du bottom-up. Mm-hmm. Tu peux un peu préciser
oui,
ce que c'est?
C'est du du bas vers le haut, c'est-à-dire de faire remonter les besoins directement de la rue ou en tout cas des gens qu'on reçoit, pour établir des lignes de comment on va mener nos actions. Voilà, c'est nous qui nous adaptons constamment au terrain et pas le terrain qui doivent s'adapter à nos conditions. C'est-à-dire que nous, on fait beaucoup ce qu'on appelle d'outreach, d'aller vers. Donc, c'est de dire qu'on n'attend pas juste dans notre local que les gens viennent que les gens viennent quand ils en ont besoin. C'est nous qui allons vers les personnes qui travaillent dans la rue, qui allons vers les personnes qui travaillent sur le net. Et on est constamment en train de s'adapter. Quand les conditions du travail changent, nous, on change aussi nos actions. On se dit, il faut aller chercher les publics qu'on ne voit jamais. C'est à nous d'aller les trouver, c'est à nous d'aller voir les personnes. Et voilà, et puis là, depuis la crise sanitaire aussi, on s'est constamment adapté, on a beaucoup changé nos actions, c'est voilà, sur beaucoup de choses.
Ouais, on reparlera un petit peu plus tard du Covid qui a dû être un élément terrible, j'imagine, pour la marginalisation encore un peu plus des TDS. Donc on comprend bien, vous êtes au plus près des communautés, au plus près des personnes concernées. Et vous êtes aussi pluridisciplinaire.
Oui.
Donc là, tu parlais d'écoute, d'accueil. Ça comprend un panel de...
Pluridisciplinaire, c'est tout simplement qu'en fait, dans l'équipe salariée, il y a des personnes qui sont issues de différents horizons, de différentes disciplines. Donc, il y a des personnes qui viennent de la santé, donc des infirmières. Il y a des personnes qui viennent du social, donc qui sont éducatrices spécialisées. Des personnes qui viennent plus de la sociologie. Des personnes qui viennent plus des milieux militants associatifs, il y a tout un tas de panels d'horizons, de background, j'ai envie de dire, de compétences des personnes. Et puis, en plus de ça, alors, les personnes peuvent aussi cumuler les différentes expériences, mais en tout cas, on considère aussi que l'expérience du travail du sexe et que l'expérience de la migration sont des compétences à part entière, autant qu'un diplôme d'infirmière, qu'un diplôme d'EDUXP, etc., même si les personnes peuvent aussi cumuler tout ça. Mais voilà.
Oui, d'autant que ça représente toutes ces disciplines, enfin le travail du sexe. Je paraphrase ce que tu viens de dire. Enfin, on a tendance, j'ai l'impression, on simplifie rapidement en fait à quelque chose d'émotionnel d'ailleurs, le travail du sexe, alors que effectivement, c'est la complémentarité d'énormément de savoirs.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Donc pluridisciplinaire, on a compris, et également féministe.
Oui, alors pour nous, c'est en tout cas à la base aussi, l'association s'est montée, c'est une alliance entre une infirmière, une militante féministe et une travailleuse du sexe. Donc dès la création de l'association, il y avait cette empreinte féministe, enfin en tout cas cet ancrage féministe, de dire que nous, c'est juste pour dire qu'on analyse ce qui se passe, ou en tout cas la question de la prostitution au travers des rapports de domination, à travers la grille de lecture des rapports de domination, que soit les rapports hommes-femmes, les rapports de genre, que soit la question des rapports nord-sud, la question des frontières, etc., etc. C'est vraiment pour dire que nous, dans nos analyses, dans comment on va voir les choses, comment on va lire les choses, on a cette grille de lecture d'analyse.
Ouais, que l'inégale répartition du pouvoir entre les hommes et les femmes conditionne le rapport de chacun chacune à la sexualité, aux outils de prévention, dépistage. Donc tout comme il y a plusieurs positionnements sur la prostitution, il y a également différents courants dans le féminisme, et vous êtes plutôt dans un courant féministe dit pro-sexe, entre autres.
En tout cas, nous on est... Disons qu'on a une position qui est pour la décriminalisation du travail sexuel, qui n'est pas abolitionniste. C'est-à-dire que la position de l'État français est une position abolitionniste depuis 1946. C'est-à-dire que l'État français considère qu'il faut abolir la prostitution parce que la prostitution serait une violence faite aux femmes en soi. Nous, on ne considère pas du tout ça comme ça. C'est-à-dire qu'on peut dire que oui, en effet, il peut y avoir des violences dans la prostitution qui vont être dues aux conditions de travail, qui vont être les conséquences de la répression, etc., etc. Mais on ne considère pas du tout que la prostitution est une violence en soi, et on n'est pas du tout pour l'abolition de la prostitution, on est plutôt pour favoriser des bonnes conditions de travail pour les personnes, des bonnes conditions de vie pour les personnes, et bien sûr mettre tout en œuvre pour les personnes qui vont être exploitées ou forcées, comme il y en a, comme dans... En fait, parce qu'on parle beaucoup de traite des êtres humains, d'exploitation, etc. Mais nous, Et on en parle comme si la prostitution était à part de la société. Mais nous, en fait, on dit que, oui, évidemment qu'il y a du travail forcé et de l'exploitation, comme dans tous les secteurs d'activité où il y a des sans-papiers, comme dans le bâtiment, comme dans le travail domestique, comme dans la restauration, etc., etc. Et la prostitution est un secteur d'activité où il y a beaucoup de personnes sans-papiers. Donc malheureusement, il y a en effet de l'exploitation.
Ouais, c'est inhérent au capitalisme.
Tout à fait.
Plus qu'à la prostitution.
Exactement.
Donc là, on va faire un peu de pédagogie. Tu viens d'utiliser le terme d'abolitionnisme. C'est vrai qu'il y a différents courants de pensée ou de positionnement par rapport à la prostitution. Il y en a trois grands courants.
Il y a trois régimes juridiques, voilà, c'est ça. Dire.
Qui sont donc le prohibitionnisme.
Ouais. Alors, le prohibitionnisme, c'est un régime juridique qui criminalise, on va dire, l'ensemble des acteurs de la prostitution, donc les clients, les travailleuses, travailleurs du sexe et les proxénètes. Donc ça, c'est un régime qui est quand même qui a cours dans la plupart des États des États-Unis. Ouais. Puis voilà, dans d'autres pays, mais bon, j'ai pas d'exemple comme ça. Et puis, alors la France a un positionnement abolitionniste, mais on peut dire que dans la pratique, c'est quand même des pratiques qui se rapprochent plus du prohibitionnisme. Okay. On le verra peut-être après.
Ouais, complètement. Parce qu'il y a d'un coup la notion d'amende et de pression liée au délit.
En fait. Donc il y a l'abolitionnisme donc qui est la position de l'État français. Dans l'abolitionnisme, il y a quand même cette notion que les travailleuses du sexe, donc c'est pas le terme n'est pas employé comme ça de la part des personnes abolitionnistes, mais en tout cas les personnes prostituées seraient soit des victimes à sauver ou des personnes marginalisées à réinsérer dans la société. Enfin voilà, les personnes sont plus vues comme ça. Alors que, en tout cas, dans la loi, elles sont quand même beaucoup considérées comme des délinquantes, c'est-à-dire que soumises à des amendes, à des délits, etc. Et donc ça se rapproche quand même plutôt des régimes prohibitionnistes, même si dans les discours politiques qu'on peut entendre, évidemment, c'est jamais dit comme ça. Et il y a un troisième régime juridique qui est le régime réglementariste, donc qui, voilà, par exemple, c'est le cas de la Belgique, de l'Espagne. De l'Allemagne, je crois, de la Suisse. Non, de la Belgique, en plus, c'est pas vrai, parce que la Belgique a changé de régime depuis 6 mois, 1 an. Donc c'est encore un cas à part. Mais en tout cas, certains pays frontaliers de la France, c'est juste que l'État va réglementer la prostitution. Donc en général, les personnes doivent se déclarer auprès des autorités, doivent travailler parfois dans des quartiers précis, etc., etc. Et donc, les personnes sont quand même extrêmement surveillées. Enfin, c'était le régime qui était en France avant 1946. Donc, les personnes doivent, dans certains pays, se soumettre à des contrôles sanitaires,
des déclarations
en préfecture. Ouais. Voilà. Et évidemment, pour les personnes qui n'ont pas le droit au travail, elles peuvent pas se déclarer. Et puis, si les personnes ne sont pas déclarées, elles peuvent être soumises à des grosses amendes, etc.
On est à chaque fois sur un truc, soit d'ultra-contrôle, soit quelque chose un peu misérabiliste, c'est ça.
Tout à fait.
On montre peut-être le pire, qu'il ne faut pas nier, puisque ça existe, tout en éludant le fait que ça peut être un choix, en fait.
Oui, alors, nous, sur la notion de choix, on va être un peu plus... On va pas dire que d'un côté, il y en a qui ont choisi, il y en a qui ont pas choisi, parce qu'en fait, c'est juste comme le travail, en fait. Tout le monde travaille pour manger, payer son loyer. Donc, qui choisit de faire quel travail? Ça, c'est toujours plus complexe que ça. Donc, nous, on va plutôt parler d'un continuum de contraintes. C'est-à-dire qu'en effet, une femme migrante qui va arriver d'Afrique subsaharienne, sans papier, etc., qui va avoir des dettes de passage, en fait, pour faire de l'argent en France, c'est sûr qu'elle a pas mille solutions. Alors, voilà, la prostitution paraît comme presque l'unique solution. J'exagère un peu, mais voilà. Et après, moi j'ai aussi discuté avec plein de femmes françaises qui me disent, moi au lieu de faire des petits boulots en intérim et d'avoir un patron qui me gueule dessus ou qui me met une main au cul, moi je préfère être travailleuse du sexe. C'est moi qui choisis mes clients, c'est moi qui choisis mes horaires, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Et du coup, c'est aussi quelque part un choix, mais c'est comme tout travail au final. Donc voilà, et que sur la question de l'exploitation, évidemment que nous on le nie pas, mais nous disons que pour nous les causes de l'exploitation c'est pas la prostitution. Pour nous c'est la question de la répression et notamment des frontières, parce qu'on dit oui, les femmes étrangères elles sont victimes de traite des êtres humains, etc. Mais si les frontières n'étaient pas aussi fermées, ben en fait les femmes n'auraient pas à passer par autant d'intermédiaires pour passer les frontières et donc contracter des dettes de passage. Et si elles avaient des droits quand elles arrivaient en France, elles pourraient avoir un logement sans payer, je sais pas, des milliers d'euros à des marchands de sommeil, elles pourraient avoir un droit au travail. Donc c'est la question de la question des frontières, de la question des personnes migrantes en France, qui fait que si les personnes avaient des droits, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup moins d'exploitation, elles seraient pas obligées de passer par des organisations plus ou moins mafieuses pour se loger, etc. quoi.
Ouais, c'est une question d'accueil aussi, de prise en charge et de solidarité. Solidarité, clairement, et c'est faut dépasser le cadre moral en fait. C'est pas une question de morale.
Non. Pour nous, c'est pas une question de morale du tout, quoi. C'est sûr que en fait, la question de la prostitution, souvent, ça, voilà, il y a une question comme tu disais tout à l'heure, émotionnelle ou morale. C'est pas bien ou c'est dur ou ceci ou cela. Mais à un moment, échanger du sexe contre des biens, de l'argent, un service, je veux dire, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existe bien au-delà de la prostitution. Nous, ce qu'on dit, en fait, ce qui a été théorisé par une sociologue, ce qui parle de continuum prostitutionnel, disons qu'entre la prostitution formelle, la personne échange du sexe contre un certain tarif, et le mariage, on va dire le mariage hétérosexuel, ou qu'est-ce que pour une femme faire un bon mariage ? Au final, c'est pas faire un mariage d'amour, c'est se marier avec un homme riche. Donc, au final, c'est dans la même logique. Nous, là-dedans, ce qu'on dit, c'est que c'est voilà, dans la société, tout ce qu'on appelle le continuum prostitutionnel. Donc, à un moment, on va centrer, en tout cas l'État, les médias vont centrer la morale sur la prostitution en soi, mais pas voir tout le reste. Donc, c'est pas cette question-là. Nous, c'est vraiment... ce qu'on dit, on est une association de santé et on sait que pour que les gens soient en bonne santé et qu'ils puissent se soucier de leur santé, il faut qu'ils aient des bonnes conditions de vie, des bonnes conditions de travail. Donc nous, c'est tout simplement ça qu'on défend. Et donc on demande, nous, ce qu'on revendique, c'est la décriminalisation du travail sexuel, c'est-à-dire l'abrogation de toutes les lois relatives au travail du sexe et juste l'accès au droit commun, comme tous les travailleurs, travailleuses. Et après, sur la question de l'exploitation, il y a... à cette chose dans le droit pour protéger les personnes de l'exploitation et du travail forcé.
Donc justement, on va parler de la position de l'État qui d'un coup gère toutes nos affaires en fait.
Tout à fait.
Et avant de parler de la loi, juste avant, je vais te faire écouter un petit son. C'est à l'occasion d'une manif organisée il n'y a pas très longtemps par Griselli 10. C'est une chanson... dans Power Mount et qui reprend un petit peu ce qu'on reproche au TDS. C'est complètement lié à la loi d'ailleurs, la loi oppressive. Ouais, je te fais écouter ça.
L'abolitionnisme est un juge qui détruit notre travail et notre punition, c'est la violence et le stigma. La putophobie est un juge qui détruit notre travail et notre punition, c'est de se battre pour nos droits. Putain, précarité, où est mon respect? Je ne veux pas disparaître. Je ne suis pas prête à me taire. La sale pute, ce n'est pas moi, ni victime, ni coupable. La sale pute, ce n'est pas moi, ni victime, ni coupable. L'assassin, c'est toi. L'assassin, c'est toi. C'est la police. C'est la justice. Let's go. ni victime, ni coupable. La sale pute, ce n'est pas moi, ni victime, ni coupable. La sale pute, ce n'est pas moi, ni victime, ni coupable. La sale pute, ce n'est pas moi, ni victime, ni coupable. Pas la sale pute. Merci.
Oui, donc on est toujours avec June de l'association Griselidis. Le coupable, ce n'est pas moi, c'est la mairie, la justice, c'est l'assemblée, les lois. Donc on va en parler un petit peu. Donc, des
oui,
lois.
Tout à fait. Bah, ça, c'est un morceau qu'on avait fait, qu'un collègue avait réécrit sur le modèle de... d'une chanson contre le viol,
ouais, le viol en Amérique latine,
du coup c'était ça avec on avait fait une petite choré et c'était vraiment pour aussi essayer de faire passer le message d'une autre manière, parce que voilà, c'est aussi bien d'écrire des tracts mais aussi des fois d'autres choses, le faire passer par la musique ou des chorégraphies ou quoi, c'est ça passe autrement, et c'est l'idée de dire qu'en fait les responsables, c'est à la fois les pouvoirs publics, que soit la mairie, la justice, la police, mais aussi l'assemblée. Dans l'assemblée, ça veut dire un peu la stigmatisation dans la société, parce qu'au final pute, ça reste une insulte qui est faite aux femmes, et la pute, c'est la femme que toutes les autres ne veulent pas être. Donc c'est cette espèce de femme qui est montrée comme celle qu'il faut jamais être. Donc il faut toujours se détacher, il faut toujours se désolidariser, et la stigmatisation, ça a des vraies conséquences dans la vie des personnes, c'est-à-dire que les personnes peuvent subir du rejet de leur famille si elles le disent, même peuvent subir des discriminations médicales si elles le disent. Enfin, c'est compliqué, quoi, tout ça. Et puis pareil par rapport à leurs amis.
Ouais, pour se loger,
pour
la santé, c'est vrai que c'est...
Il y a des vraies problématiques, et on ne peut pas dire, comme ça, au milieu d'une tablée avec des amis, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis pute. Ça crée un froid, ça crée un blanc, les gens sont mal à l'aise, les gens sont gênés, donc c'est sûr que ce stigmate est toujours extrêmement présent dans la société, et ce qui fait qu'aussi, pour des personnes qui sont TDS, elles ne vont pas oser le dire, ou elles vont avoir aussi une très mauvaise image d'elles-mêmes en disant, moi, je sais faire que ça, je suis nul, c'est nul, c'est horrible. Enfin, donc c'est un peu pour dénoncer tout ça, et que c'est lié, la répression, les lois et la stigmatisation, tout ça est extrêmement lié.
Ouais, c'est carrément donc renforcé par les lois qui invisibilisent. Donc que dit la loi, que la tisane. que dit la loi ? La loi n'interdit pas la prostitution. Bon, ça c'est un premier point.
Ouais, même la prostitution est légale.
Non, mais c'est important à rappeler, parce qu'en vrai, je ne suis pas sûr. Non, c'est pas forcément, ouais.
La prostitution est légale, mais du coup, ce qui entraîne que les gens sont censés se déclarer pour être en accord
pour
avec
les impôts, tu
pour
veux
les
dire,
impôts, c'est-à-dire se déclarer en auto-entrepreneur.
Tout à fait, ouais.
Ce qui c'est une minorité de personnes qui se déclarent, mais bon, ce qui fait que quand même, nous, on a accompagné des personnes... notamment des femmes qui avaient bossé dans les années 70-80, à un moment où il y avait de l'argent et qui ont pu accéder à la propriété ou à des choses comme ça, et qui ont eu des gros redressements fiscaux parce qu'elles n'ont pas pu justifier d'où venait l'argent qu'elles ont utilisé pour acheter leur appartement. Donc c'est légal, les personnes sont censées se déclarer, et après on dit que c'est un travail illégal dont toutes les conditions sont rendues illégales, parce que ce qui est légal au final, c'est juste pour se déclarer et payer des impôts. C'est-à-dire que déjà il y a les lois sur le proxénétisme qui datent des années 60. Donc les lois sur le proxénétisme sont très larges et très complexes, c'est-à-dire évidemment il y a ce qu'on entend dans l'opinion publique, c'est-à-dire toute personne qui contraint une personne à se prostituer est punie par la loi. Bon, ça c'est un fait, c'est ce qu'on appelle le proxénétisme de contrainte. Mais après il y a deux autres types de proxénétisme. Il y a le proxénétisme hôtelier, donc qui punit tout propriétaire ou gérant d'hôtel, de Airbnb, d'appartement, de tout bien immobilier qui loue son bien à une travailleuse du sexe pour qu'elle travaille. Donc, par exemple, juste pour un exemple, ces dernières années, il y a eu pas mal de condamnations de propriétaires de Airbnb. Et à Toulouse, Donc ça date un peu, mais en tout cas, en 2017, il y a l'hôtel Le Grand Toulouse, qui est rue Bayard, c'était en plein travaux et gentrification de la rue Bayard. Donc un jour, en plein hiver, les flics sont arrivés, ils ont fermé l'hôtel en moins d'une heure. Et c'était un hôtel où il y avait, je crois, 14 travailleuses du sexe qui vivaient. C'était un hôtel voilà, à côté de la gare, qui est un hôtel pas cher, où il y a un peu des gens en galère qui vivent. En une heure, les gens ont dû partir. Et le gérant et le veilleur de nuit, enfin, le gérant a pris 7 ans ferme pour proxénétisme aggravé. Il forçait personne hein, à travailler. C'est juste que, bah, il récoltait.
C'est un relais.
voilà.
Intermédiaire.
Et que les personnes vivaient. Voilà, il y avait beaucoup de travailleuses du sexe qui vivaient dans cet hôtel. Donc, suite à ça, bah, les autres hôtels de ce style-là ont fermé en moins de 2 jours parce que les gérants ont eu peur et ils ont mis la clé sous la porte, ils sont partis. Donc, les personnes se sont retrouvées dans une merde pas possible. C'est-à-dire que les personnes qui avaient ces chambres d'hôtel pas très chères pour vivre et qui faisaient quand même un logement stable. Mais elles sont retrouvées dans des campements, en galère, à la rue, dans d'autres hôtels, mais on ne pouvait pas rester très longtemps.
Déjà, on est sur de la précarité, on n'est pas...
Tout à fait. Et du coup, voilà, et le proxénétisme hôtelier fait que aussi, les personnes, quand elles travaillent dans des Airbnb ou dans des hôtels, bah, il faut qu'elles se cachent. Il faut se cacher des voisins, il faut trouver des hôtels où la réception n'est pas très regardante, ou alors il n'y a pas de réception, il y a des hôtels sans réception, on réserve sur Internet, etc. Donc voilà, donc après... Par exemple, en cas d'agression, elles n'ont pas de ressources ou c'est beaucoup plus compliqué d'aller dire au gérant, enfin voilà, à la personne à la réception de l'hôtel ou machin, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque les personnes sont censées se cacher. Donc ça, c'est le proxénétisme hôtelier. Et l'autre type, le dernier type de proxénétisme qui est encore plus large, c'est ce qu'on appelle le proxénétisme d'aide et de soutien. C'est-à-dire qui condamne toute personne qui apporte son aide à une travailleuse du sexe pour qu'elle travaille ou qui récolte d'une manière ou d'une autre les fruits de l'argent de la prostitution. Juste des exemples très précis. Bah, demain, toi, par exemple, si t'as une amie qui est travailleuse du sexe, tu l'emmènes au travail en voiture, t'es proxénète. Les travailleuses du sexe qui s'entraident entre elles, qui vont, par exemple, elles veulent prendre un Airbnb ensemble, donc là, le propriétaire du Airbnb est condamnable via le proxénétisme hôtelier, mais elles-mêmes sont condamnables parce qu'elles s'entraident, c'est-à-dire qu'elles sont considérées comme les proxénètes les unes des autres. Embaucher, par exemple, voilà, là, une période où il y a de plus en plus de violences et d'agressions, embaucher quelqu'un pour faire sa sécurité, en tant que travailleuse du sexe, ben on ne peut pas, parce que la personne est considérée comme proxénète. Enfin, tout un tas de choses comme ça, et même, voilà, par exemple, pour les conjoints, c'est compliqué, enfin, les couples, être en couple quand on est travailleuse du sexe, et ben si la personne va payer un peu plus de loyer, ou va offrir un cadeau, ou voilà, ben, c'est le conjoint et peut être considéré comme proxénète. Donc voilà, c'est très, 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 très large, quoi. Enfin, je veux dire, même si on tire le fil de cet article qui est un peu... qui n'a pas de sens, on peut dire que l'épicerie du coin où la travailleuse du sexe doit faire ses courses est proxénète, puisque en fait elle le fait avec l'argent de la prostitution.
Ouais, l'État a toujours un positionnement ambigu, un peu paradoxal,
Complètement paradoxal, ouais. Parce que, donc il y a ces lois sur le proxénétisme, mais après il y a ce qu'on appelle la pénalisation des clients. Donc d'un côté...
Ça c'est la grande loi, la dernière grande loi, un petit peu, qui date de...
2016.
Ouais,
En 2016, c'est qu'en fait sous Sarkozy, en 2003, il avait mis le racolage passif. Il avait donc les personnes qui travaillaient dans la rue pouvaient se prendre des amendes,
ouais, voilà,
etc. Et donc en 2016, on est sous un gouvernement de gauche qui dit non mais nous on est à gauche donc on veut plus pénaliser les travailleuses du sexe, enfin, les personnes prostituées et on va inverser la charge pénale. Donc ils ont aboli le racolage passif, le délit de racolage passif et ils ont mis en place la pénalisation des clients, donc à la place de pénaliser les clients.
Oui, parce que le racolage n'est plus interdit, c'est ça?
Non. C'est plus interdit. C'est juste les clients qui sont pénalisés. Mais nous, on a toujours été contre cette loi. Même on a été auditionnés avant le vote de la loi. Parce qu'on a dit, bah, en fait, si les clients sont pénalisés, c'est simple. Il y en a qui vont avoir peur, qui ne vont plus sortir. Et donc, il va y avoir moins de clients. Donc, en fait, bah, le pouvoir de négociation va être davantage de leur côté. Enfin, c'est vraiment le truc de l'offre et de la demande basique. C'est-à-dire qu'il y a moins de clients, du coup, il y a moins de travail pour les personnes. Donc, en fait, après, les clients ont plus de pouvoir pour baisser les tarifs, pour négocier des pratiques, le port du préservatif, etc. Puis, voilà, malheureusement, c'est ce qu'on voit depuis cette loi depuis cette loi, quoi. Il y a beaucoup plus de négociations, les tarifs sont en baisse, sur la question du port du préservatif aussi. Voilà. Et avec cette loi, donc c'est ce qui est un peu. Donc, ça, c'était le volet répressif de la loi. Et ils ont voulu mettre en place un volet social, parce que le but de la loi, c'est de tarir la demande et que comme ça, d'abolir la prostitution.
Ouais, voilà. C'est un vœu pieux.
C'est un vœu pieux, tout à fait. Du coup, ils ont mis en place un espèce de volet social qui est le parcours de sortie de la prostitution, qui propose un parcours de sortie, soi-disant avec des droits. Donc ça a été mis en place un an et demi après le vote de la loi. Et en gros, ce que ça propose aux personnes... Donc, pour accéder à ce parcours, il faut arrêter la prostitution. C'est déjà complètement n'importe quoi de demander à des gens d'arrêter un travail illégal pour accéder à un dispositif social. Et donc, il y a une allocation pour ce parcours.
C'est la logique d'aide, en fait. Là, ouais, c'est vraiment ça. Abolitionniste. Là. C'est ça.
Donc, il y a une allocation de 330 euros par mois, non cumulable avec d'autres minima sociaux. Donc, dire les personnes françaises ont le RSA, donc de toute façon c'est pas fait, enfin voilà, ça les intéresse pas. Et après ça propose une autorisation provisoire de séjour de 6 mois renouvelable pendant 2 ans, enfin renouvelable 4 fois, donc. Et donc voilà, donc c'est des miettes, c'est rien. Donc il faut présenter un dossier à une association agréée qui est agréée par la préfecture, et donc nous on a choisi quand même d'avoir cet agrément, on va présenter les dossiers des personnes en préfecture, il y a des débats et puis c'est accepté ou pas. Voilà, il faut que les personnes montrent une volonté d'insertion, d'apprendre le français, enfin bon, tout ce qu'on connaît. Et au final, ce qui est quand même intéressant dans l'analyse, c'est que dans les discours, à l'époque c'était Najat Vallaud-Belkacem, c'était on va sauver ces pauvres femmes de la traite des êtres humains, nous, la France, pays des Lumières, etc. etc. Au final, on voit que, nous, on le voit tous les 3 mois en commission, que ce qui prime, c'est d'abord le statut de migrante, et le statut de migrante est un statut de coupable ici en France aujourd'hui, et donc on va toujours les soupçonner de vouloir gratter je sais pas quoi, avant de leur donner des papiers, parce que si sauver les femmes, c'est leur donner des papiers, au final, il n'y a plus personne, en tout cas, il n'y a plus grand monde, parce que la France avait dit oui, il y aura 1000 personnes par an dans ce parcours de sortie. Là, on est en 2022, 6 ans après la loi, il y a 600 ou 700 personnes dans toute la France qui ont eu en tout ce dispositif, c'est bien le maximum, quoi.
Par contre, les mairies peuvent mettre en place des arrêtés.
Ouais.
C'est un peu ce qui s'est passé post-Sarko
En fait, ça a commencé à être mis en place en 2002. À Orléans, c'est les premiers arrêtés municipaux, donc c'est des arrêtés anti-prostitution. Ouais. Ça va être différents prétextes selon les villes. Parfois, à Lyon, c'est beaucoup des arrêtés anti-stationnement de camionnettes, parce qu'il y a beaucoup personnes qui travaillent en camionnette. À Toulouse, il n'y a jamais eu de camionnettes qui sont installées, mais Toulouse, c'est plus trouble à l'ordre public, etc. Il y a différents prétextes selon les villes, et donc ça a été étendu, ces arrêtés, donc dans beaucoup de grandes villes de France les ont mis en place, donc Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, et puis après plein de petites villes, je sais pas, il y en a eu Albi, des arrêtés, enfin voilà, pour donner des exemples.
Grosse plaque tournante, Albi.
Exactement,
en plus.
C'est chaud, quoi. Et à Toulouse, c'est avec l'arrivée de Jean-Luc Moudin que ça a été mis en place en 2014. Donc en gros, globalement, ces arrêtés sont mis en place sous pression de comités de riverains. À la base, c'était le boulevard de Suisse. Et puis voilà, il y a eu différents comités de riverains. Et puis ils sont étendus, donc ils sont revotés tous les ans. Et ils sont étendus selon en fait les pressions des comités de riverains. Et en gros, c'est vraiment des politiques de gentrification des villes, d'embourgeoisement des centres-villes. En fait, qui rappelle un peu les arrêtés anti-bivouac, les arrêtés anti-mendicité.
Ouais,
en
voilà,
gros, c'est pour
ça,
dire, avoir des putes en bas de chez moi, ça fait baisser le prix de mon logement, et moi, je veux pas, hein. Et en plus, et après, voilà, ils disent, oui, il y a des capotes par terre, les gens vont faire leurs besoins, et il y a des portes qui claquent. Mais je veux dire, pour ce genre de problèmes, qui sont des vrais problèmes, je suis d'accord, mais je veux dire, il y a d'autres solutions que la répression. D'ailleurs, il y a d'autres villes qui ont adopté d'autres... stratégies, comme voilà, des stratégies de médiation. Déjà, nous, on dit, si vous mettiez des poubelles et des toilettes, il n'y aurait plus des problèmes de capote par terre et compagnie. Et après, pour ce qui est du bruit, bah, en fait, nous, on peut faire de la médiation entre les riverains et les personnes. Et en fait, tout le monde pourrait vivre dans les mêmes quartiers sous bonne entente. Mais donc, la question des nuisances sonores, etc., c'est qu'un prétexte. Et les vraies raisons, c'est vraiment la question de l'embourgeoisement, et que d'avoir un député en bas de chez soi, ça fait pas bien. Donc, ça a été mis en place en 2014. Ils sont étendus chaque année. Et là, aujourd'hui, Ces arrêtés municipaux couvrent presque tout le canal du Midi, de la gare jusqu'à Pont-Jumeau, et puis tout, bah voilà, les minimes et barrières de Paris jusqu'à avenue des États-Unis, jusqu'au rond-point du périph', donc très loin sur l'avenue des États-Unis. Et donc, y a toujours des personnes qui travaillent dans ces zones-là, mais elles sont... elles se font contrôler en permanence, mettre des amendes en permanence, et puis après ça ouvre aussi la possibilité, en fait c'est la police municipale qui fait ça, et qui se permet un harcèlement policier, ouais. Avec des contrôles permanents, des insultes racistes, homophobes, transphobes, des violences physiques par moment, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, une des choses qui pourrit la vie des personnes qui travaillent dans la rue tous les jours, quoi. Toulouse, c'est vraiment l'enfer.
Ouais, parce que ça fait pas disparaître la prostitution, en fait. Ça fait éloigner les TDS dans des lieux isolés,
exactement.
Plus dangereux.
Maintenant que t'es morte, voilà que tu fais la une, fait l'hiver partout. Y'a même pas de nom, tout le monde s'en fout. Maintenant que t'es morte, on verra qui est-ce qui viendra te chercher dans ton trou. Le corps d'une pute, tout le monde s'en fout. But now we don't play, so don't pretend to be.
Thank you.
c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, pour voilà, les gens qui connaissent bien Toulouse, il y a de plus en plus de TDS qui bossent donc au fond de l'avenue des États-Unis, là, à la limite d'Aucanville. Donc c'est des zones industrielles.
Il se passe rien, c'est des échangeurs.
Ouais, voilà. Hyper mal éclairées, sans riverains. Mmh. Et donc, bah voilà, elles sont beaucoup plus exposées aux violences. Parce que là, on a vu quand même ces derniers temps pas mal de braqueurs qui venaient et qui, à 4h du matin, bah, ils braquent des femmes en se disant bah, y a toute la recette de la nuit qui est là. Et là, je veux dire, c'est des choses qui arrivent quand même assez souvent, malheureusement. Et voilà, et que du coup. Bah, c'est ça, et que les personnes qui continuent à travailler dans les espaces interdits, elles sont, vraiment, elles sont constamment aux aguets pour fuir la police, se cacher de la police, etc. Ouais,
donc criminaliser le client, c'est pas une solution, en fait.
Non, pas du tout, parce que là, ce qu'on a pu voir, c'est que aujourd'hui, les clients veulent se cacher, donc en fait pour travailler il faut trouver des endroits assez discrets pour attirer les clients, le temps de négociation dure moins longtemps parce que les clients ils veulent pas être comme ça avec une femme qui discute avec elle et qui est visiblement travailleuse du sexe. Donc non, il y a pénaliser le client, ça a juste impacté sur les conditions de travail des travailleuses du sexe, en fait. Et qu'après, en plus, voilà, donc le client est pénalisé, il peut avoir une amende de 1 500 € envoyée chez lui. Donc c'est ça le gros truc, comme la majorité des clients sont des hommes mariés, ils n'ont pas du tout envie d'avoir cette amende envoyée chez eux. Et après, ils peuvent être condamnés à un stage de sensibilisation.
Ah ouais.
Okay. Ils sont obligés.
C'est comme la vitesse, c'est ça.
Ouais, volant, c'est là, ça, exactement. Donc ils vont 2 jours à un stage où on leur dit la prostitution c'est mal, les femmes sont exploitées, et voilà. Donc ouais, et puis ça concerne uniquement les clients de la rue, évidemment. Mais en tout cas, ça sert surtout à rendre la vie impossible aux personnes, aux travailleuses du sexe en premier lieu, c'est ça.
Alors que dans l'idée de la dépénalisation, tu es là pour les aider. Donc c'est vraiment un paradoxe total, en fait, de l'État et de la loi.
Oui, c'est sûr que c'est. Enfin, il y a quelque chose de très, très paradoxal, parce que il y a cette pénalisation, puis le volet social, on dirait que c'est vraiment la bonne conscience du législateur. C'est juste de dire, allez, on leur donne 3 miettes pour se laver la conscience. Et puis c'est tout, mais c'est sûr que en fait, comme l'État français, le paradoxe c'est qu'à un moment, pour aider les personnes, nous, je veux dire, il n'y a pas 36 solutions, je veux dire, aider vraiment les personnes qui sont exploitées et les plus précaires, ouvrez les frontières, donnez des droits sans papier, et c'est là où la France, il est là le paradoxe, c'est que d'un côté il y a les politiques migratoires qui se durcissent d'année en année, et d'un côté il y a ça, enfin, donc en fait eux ils font semblant d'amener des solutions, de faire des choses, mais qu'en fait ils veulent pas s'attaquer au vrai problème, parce que en fait c'est eux qui, enfin je veux dire, c'est l'État qui crée la France qui crée et l'Europe qui crée les vrais problèmes, ouais. C'est-à-dire de fermer les frontières.
Donc Grise et Lédis, l'association, vous, la façon d'aider c'est d'être sur le terrain, de lutter contre les inégalités sociales liées à la santé. Vous tirez votre nom en fait de Grise et Lédis Réal, qui était prostituée, artiste et révolutionnaire, poétesse. Et écoute, je vais te faire écouter un petit son que j'ai trouvé d'elle, et puis ça permettra après de parler de vos actions et de ce que vous faites concrètement.
Okay,
donc je te fais écouter Grise et Lédis Réal.
Mais comme j'étais dans une situation financière épouvantable, tous les horizons étaient bouchés, j'avais pas de papier, pas de travail, pas de permis de travail, mes gosses et moi on n'était même pas déclarés à la police, donc il fallait survivre, alors des hommes venaient coucher avec moi en me payant. Évidemment, je m'apercevais quand même que c'était pas l'amour qui les poussait, quoi. Hein, c'était la satisfaction sexuelle, c'était la levée de leur propre frustration, quoi. Une certaine libération qu'ils cherchaient, ou alors une certaine revanche. Il y en a qui venaient se venger. Il y a souvent des clients qui viennent se venger de toutes les frustrations que leur propre mère, leur grand-mère et toute la société entière leur a infligées. Alors ils viennent se venger sur une putain.
L'essence même de la prostitution, d'où ça peut venir, etc. Toi, elle aborde quand même pas mal de thèmes. Vous, concrètement, vous êtes aussi une association qui lutte contre l'exploitation, les violences, les discriminations. Là, j'ai mis volontairement ce passage puisqu'elle aborde les violences physiques, en fait. Vous mettez en place aussi une réflexion autour de l'autodéfense. Enfin, vous êtes vraiment dans une idée d'autonomie.
Oui, bah, y a vraiment cette notion, alors, qui est très galvaudée aujourd'hui, mais d'empowerment, c'est-à-dire que les personnes, en fait, aient le plus de ressources possibles pour s'en sortir, pour être autonome, et que, en fait, ces ressources-là viennent de la communauté. C'est-à-dire que là, on a organisé une semaine d'autodéfense pour les travailleuses du sexe, avec une formatrice qui est elle-même travailleuse du sexe et qui a été formée dans un programme qui s'appelle le SWAG, c'est Sex Worker Autodefensia Group, donc c'est vraiment l'autodéfense féministe spécifique pour les travailleuses du sexe, c'est-à-dire quand je vais au travail, à quoi je pense, dans telle situation avec un client, enfin c'est vraiment voilà, adapté au travail sexuel, et c'est ça l'idée de l'empowerment, c'est-à-dire que collectivement, la communauté va se renforcer parce que il y a un cadre de rencontres, d'échanges, etc. qui va être mis en place pour échanger des stratégies, se renforcer, être solidaire, etc. Donc c'est vraiment ça, et après oui aussi, l'autonomie c'est aussi un moment de... par exemple, les personnes qui ne maîtrisent pas le français, qui ne savent pas bien se repérer dans la ville, que nous, voilà, on passe du temps à leur expliquer les choses, à leur expliquer aussi l'administration française, par quoi elles vont passer. Et c'est tout, voilà, toutes ces petites choses, entre guillemets, pour qu'après, elles aient plus besoin de nous. Quoi. C'est ça l'objectif. Quoi. Voilà, et après, oui, c'est sûr que. Après, sur les violences physiques, il y a tout ça. Après, on a quand même aussi de travailler avec une avocate. Qui peut spécialiser sur les violences, qui reçoit les gens et qui peut aussi les conseiller et les aider. Quoi.
Pour les... Si tu portes plainte, par exemple, est-ce que c'est entendable si...
Non. Déjà, on a vu avec tout le mouvement MeToo et tout, comment les femmes qui ne sont pas travailleuses du sexe sur les plaintes, sur des questions de violences conjugales, de viol, etc., elles sont... c'est compliqué. Donc, il faut imaginer les travailleuses du sexe. Déjà, il y a cette idée qu'une travailleuse du sexe ne peut pas se faire violer, ou soit que, et ça c'est la position des abolitionnistes, toute passe est un viol, donc au final si toute passe est un viol, pourquoi il y en a une passe qui serait plus un viol qu'un autre? Donc voilà, donc porter plainte c'est très 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 compliqué, d'ailleurs la majorité des personnes ne veulent pas, nous c'est quand même notre travail de leur proposer, et même de les accompagner, parce qu'on sait qu'elles sont très mal reçues, et déjà pour beaucoup de gens, notamment les personnes dans la rue, porter plainte n'a pas de sens parce que la police, c'est d'abord un organe de répression, donc pourquoi la police les aiderait ? Donc c'est déjà ça. Et après, nous, on a quand même vu plein de plaintes qui se sont très mal passées, et même au niveau de la justice, si ça arrive jusqu'à la justice, ça se passe mal, et c'est considéré, un viol peut être considéré comme un différend commercial. C'est-à-dire que l'agresseur, on peut lui demander, ça, un juge peut lui demander ça, de payer le prix de la passe, comme ça c'est plus un viol. Donc c'est ça. Et même pour des histoires d'agression, de viol, de violence qui sont arrivées jusqu'à la justice, jusqu'à des dommages et intérêts pour la travailleuse du sexe victime, la SAVIM, donc qui est l'organisme qui est censé payer les dommages et intérêts quand les coupables, les agresseurs, je sais pas comment dire, sont pas solvables, la SAVIM a déduit de 50% les dommages et intérêts en disant « vous avez concouru à votre agression ». Parce que vous êtes travailleuse du sexe. Un courrier écrit, enfin nous on a les courriers écrits. Donc on voit que c'est vraiment hyper, hyper compliqué d'obtenir une réparation de l'institution judiciaire, et que du coup ça fait que c'est sûr qu'au final, pour des agresseurs, aller violer une pute c'est pas grave en fait, on s'en fout, c'est rien. Et donc,
on fait même pas le lien, j'imagine.
Non, on fait pas le lien. Donc nous, c'est quand même important pour nous de visibiliser cette question des violences, que l'État est assez sourd. Enfin, sur ces questions-là, il y a très peu d'actions qui sont menées. Que donc nous, on essaye de mettre en place de manière communautaire, de manière interassociative, des outils pour lutter contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Mais ça reste. Ça reste quand même très compliqué, et que du coup, nous on a un cahier, ce qu'on appelle un cahier des agressions, on note tous les récits que les personnes nous racontent pour avoir quand même un peu des choses à dire, des récits, et des fois de regarder sur un an, et c'est hallucinant tout ce qu'on a entendu. Quoi.
Et effectivement, vous précisez que ça concerne également les sans-papiers, c'est-à-dire... t'existes encore moins par rapport à l'État quand t'as pas de papier, mais donc t'es potentiellement encore plus ta voix compte encore moins. Mais
faut savoir qu'en tout cas à Toulouse et globalement dans la rue, la majorité des personnes aujourd'hui qui travaillent dans la rue sont des personnes étrangères. Alors, toutes sont pas sans papier, hein, mais en tout cas, la majorité sont des personnes migrantes. Et c'est vrai que, par exemple, il y en a qui nous ont raconté, elles ont appelé une fois les flics à 2h du matin, là, à Toulouse, il y a quelques années, en disant « on vient de se faire braquer par un flingue, avec un flingue, il y a un mec qui nous a braqué avec un flingue ». Donc, des femmes avec un fort accent étranger qui appellent à 2h du matin, les flics leur ont dit quoi ? Qu'est-ce que ça peut nous foutre ? Ils ont raccroché. Bon, c'est sûr qu'après, voilà quoi. C'est pour ça que nous, c'est aussi notre travail d'accompagner ces personnes, de leur dire c'est grave, on n'a pas à vous faire ça, c'est hyper grave. Et puis d'essayer de visibiliser ou de les accompagner voilà, dans la voie de la plainte et de la voie judiciaire si elles le souhaitent. Mais qu'on essaye de développer d'autres voies aussi de reconnaissance puisqu'elles sont jamais reconnues par les institutions.
Alors les outils modernes permettent une application qui est Appel, que vous validez
Oui, alors nous c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours, donc Appel c'est un bracelet, ça a été mis en place sur la question des violences faites aux femmes, donc c'est un bracelet connecté qui peut être connecté à 3 numéros et donc c'est très discret et donc quand y a un souci ou quoi, la personne elle peut appuyer discrètement sur le bracelet et la conversation, donc ça appelle les 3 numéros enregistrés et la conversation s'enregistre. Ça peut faire foi de preuve au niveau de la justice. Ce qui est compliqué avec ce bracelet, c'est qu'il faut avoir, faut que tout le monde soit connecté et la personne qui porte le bracelet et un smartphone connecté et les personnes qui sont enregistrées. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas pour les personnes qui travaillent dans la rue, elles ne travaillent pas avec leur smartphone, donc voilà, elles sont pas de connexion. Okay. Donc voilà, donc c'est pas, enfin, ça peut être utilisé plus pour des escortes, c'est-à-dire des personnes qui travaillent via le net, qui vont plus aller avec leur smartphone au travail. Mais c'est vrai que voilà, nous on travaille beaucoup en fait avec Médecins du Monde à Paris a développé le projet Jasmine, qui est un projet de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Où il y a un site et une appli, et en gros, donc il y a tout un truc sur les droits des personnes qui est public. Et après, au niveau, on va dire, plus privé, il y a comme une liste des personnes, voilà, des agresseurs déjà recensés par d'autres travailleuses du sexe, avec des numéros de téléphone, des mails, ce qui s'est passé. Et donc, cette liste, ça permet de partager à toutes les personnes qui sont inscrites sur ce projet de partager ces ressources-là. Et donc, il y a des personnes qui peuvent dire « Ah bah tiens, je vais voir, il y a ce client-là qui veut me voir, je sais pas, je le sens pas trop, j'ai envie de vérifier, je rentre son numéro de téléphone dans l'appli et ou dans le site et je vois s'il est déjà répertorié comme un mec qui a agressé une personne ou qui s'est mal comporté. »
Yep. Tu veux qu'on passe de la musique si, écoute, on va passer Lio, qui a fait un remake de son propre titre Banana Split, c'est ça ? Et là, c'est Banana Safe, qui parle un petit peu des pratiques
protégées. En fait, ouais, pour présenter le morceau, c'est SIDA Action. Là, en fait, il y a eu le 1er décembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Et donc SIDA Action, la fondation SIDA Action, a fait avec les artistes, donc il y a Lio, mais aussi il y en a plusieurs autres, des années 80, des tubes des années 80, un peu remixés en mode prévention VIH, aussi parce que cette année-là, en fait, les chiffres du VIH, ils se sont rendus compte que 23% des personnes qui ont découvert leur séropositivité en 2021 avaient plus de 50 ans. Donc c'est un peu une campagne aussi pour les personnes de plus de 50 ans avec ces tubes-là. Donc moi, j'ai trouvé ça aussi chouette de faire cette initiative-là parce que je trouve que la question de la prévention, de la santé, de la lutte contre le VIH, ça peut aussi être un peu fun et que je trouve ça chouette de mettre un peu du fun là-dedans parce que sinon ça paraît toujours très sérieux et des fois un peu ennuyant. Quoi.
Bon, alors on va être sérieux et ennuyant juste après parce qu'on va parler de ça. Bon. Mais juste avant, Lio, bien sûr.
Ouh, banana safe. Merci Lio.
Ouais.
Si tu nous écoutes, représente. Oui, donc, toujours avec June de Griselidis. Oui, une de vos missions, c'est quand même la lutte et la prévention, entre autres le VIH, les hépatites, certaines IST, qui sont aussi, je trouve, symboles d'inégalité au droit à la santé.
Oui, bah, nous, en fait, c'est vraiment notre première mission, donc vraiment la mission de première ligne de prévention, donc tout simplement distribution de matériel, ouais, de prévention, voilà, préservatifs, différents outils, gel, etc. Mais c'est aussi l'accès à l'information et puis après l'accompagnement, parce qu'en fait parfois les personnes elles vont aller à l'hôpital ou quoi, elles vont être mal reçues, on va leur refuser des soins, on va vouloir les faire payer, voilà. Donc nous, notre mission, c'est aussi que les gens aient correctement accès aux soins, voilà. Donc c'est vraiment un travail de tous les jours, et c'est vraiment le cœur de notre mission, que ce soit dans la rue, pour les personnes dans la rue. Donc on fait des maraudes avec, on a un bus de prévention, on fait des maraudes de jour et de nuit toutes les semaines pour distribuer du matériel, et puis voilà, faire de transmettre les informations, les ressources, bah, dans toutes les langues que les gens parlent dans la rue, et puis pouvoir les accompagner à l'hôpital en cas de rupture de préservatif par exemple, pour accéder au traitement post-exposition, pour éviter une contamination VIH. Et puis après, nous, on a quand même une grosse action sur Internet depuis 2009, où on va à la rencontre des travailleuses du sexe sur Internet. Donc, dans toute la France, on envoie des messages, on envoie des préservatifs, des courriers, enfin des colis. Et puis, donc, on essaye d'être assez présent sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi là où ça se passe aujourd'hui, et de faire de la prévention sur ces réseaux sociaux-là, avec des stories, des vidéos, des images, voilà.
C'est ce que j'allais dire, aussi votre site internet est très bien fait, interactif, vous expliquez très concrètement en fait la transmission du VIH. Oui, c'est très clair, très précis, et très pédagogique.
En tout cas, on essaye, et puis on sait que pour toucher différents publics, il faut essayer de le dire aussi de différentes manières. Donc oui, c'est sûr qu'il y a notre site, on essaye qu'il soit un peu complet et qui est un site qui est pensé comme un site de ressources à la fois pour les travailleuses du sexe, mais aussi à la fois pour d'autres personnes d'associations, du personnel soignant, des travailleurs sociaux, etc. Et après, on est aussi, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui ne vont plus voir les sites internet, mais qui sont que sur les réseaux sociaux. On essaye aussi, via ces réseaux sociaux-là, et notamment des applis ou des réseaux plus pour les jeunes, genre TikTok, Snapchat ou quoi, de faire pas mal de prévention là, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau-là sur ce type de plateforme. Donc voilà, on essaye par différentes manières de donner accès, en tout cas aux informations sur les outils de prévention, sur les questions de VIH, hépatite et IST. Et après, ce que je disais sur l'accès aux soins, c'est qu'on s'est rendu compte que notamment pour des personnes étrangères, par exemple, je donne un exemple bête, mais le TPE, donc qui est le traitement post-exposition qu'on peut prendre après une prise de risque pour éviter une transmission du VIH, c'est normalement gratuit pour tout le monde. À l'hôpital, et en fait nous on a rencontré des personnes, des femmes étrangères, on leur avait demandé de payer 400 €, des choses comme ça, ou des personnes qui nous appelaient en disant je vis avec le VIH, j'ai un traitement, mais dans 2 jours je vais être en rupture de traitement, là je suis dans une ville où je suis pas suivi habituellement, comment je fais? Et nous on les oriente vers des structures de soins où elles pourraient normalement avoir leur traitement VIH, et les structures nous disent non, nous on fait pas ça parce que ça nous plombe le budget, parce que le traitement VIH c'est trop cher. Donc c'est à nous après de monter au créneau, d'aller voir les supérieurs, de dire non, vous êtes obligé de le faire, c'est grave une rupture de traitement VIH, etc. Donc nous c'est aussi ça notre travail, d'accompagnement ou de se rendre compte aussi que parfois il y a des personnes qui vivent avec le VIH, qui prennent pas leur traitement, et en fait c'est aussi d'essayer de comprendre avec la personne qu'est-ce qui fait qu'il freine la prise de traitement, et que parfois en fait tout simplement c'est que je sais pas, la personne vit dans un endroit très petit avec beaucoup de gens, et donc avoir un traitement VIH c'est aussi le risque que les personnes avec qui elles vivent le sachent, et donc de se faire rejeter, de se faire expulser de son logement déjà précaire. Et donc voilà, à nous de trouver des stratégies, des solutions, par exemple de proposer ce qu'on a pu faire, d'aller acheter, je sais pas, d'autres médicaments médicaments à la pharmacie et de mettre le traitement VIH dans d'autres boîtes de médicaments. Voilà, donc c'est aussi tout ça, parce que la question du VIH, c'est aussi vraiment très lié aux inégalités, aux conditions de vie. C'est-à-dire que, en fait, c'est sûr que la prise de traitement, il peut y avoir un regard un peu jugeant, moralisant. Ah oui, bah elle prend pas bien son traitement, pourtant c'est facile, mais c'est quoi? Elle prend pas soin de sa santé. Non, mais en fait, prendre soin de sa santé aujourd'hui, c'est presque un luxe. C'est-à-dire que on peut prendre soin de sa santé quand on vit bien, quand on gagne bien sa vie, quand on a une chambre à soi, etc. Quand on a de quoi manger, quand on a une famille à nourrir et qu'on arrive à nourrir et qu'on n'a pas d'autres soucis sociaux, quoi.
Ouais, c'est vrai que vous parlez de ça, de la nutrition. Du stress, du sommeil, enfin ça fait aussi partie d'une réflexion globale sur le fait de prendre soin de soi.
Prendre soin de soi, c'est sûr qu'en fait, on le voit très bien, de toute façon, quand les personnes sont anxieuses, quand les personnes n'ont pas à manger, quand les personnes... Voilà, c'est très simple, quand les personnes n'ont pas à manger ou n'ont pas de quoi dormir, c'est possible qu'à 4h du matin, quand elles ont fait zéro client, parce que tout le monde veut du sang capote, et c'est possible qu'à 7h du matin, elles disent oui, il y a du sang capote. Donc c'est aussi simple que ça. Comment les personnes sont plus exposées au VIH et aux IST quand elles sont plus précaires, et comment c'est plus compliqué de prendre des traitements. Et donc nous, c'est vrai qu'on va aussi travailler sur ces questions d'anxiété, de sommeil, et malheureusement, on a vu avec la très forte précarisation de l'activité, que ce soit après la loi de 2016 ou pendant la crise sanitaire, en fait, ça a explosé. La question de la santé mentale, pour nous, maintenant, c'est quelque chose de très présent, alors que ça l'était beaucoup moins avant. Il y a 3 ans, c'était pas... Voilà, c'était quelque chose qui existait, mais pas plus que dans la population générale. Et aujourd'hui, ça a explosé, quoi.
D'ailleurs, on parle de traitement VIH, et là, tu viens de parler du Covid. Il y a un vaccin. Pourquoi il n'y a pas de vaccin
Moi, je suis pas soignant, donc je vais pas commencer à répondre à cette question du pourquoi il y a pas de vaccin VIH. Il y a des recherches. C'est un rétrovirus, c'est compliqué. J'en sais rien. En fait, je vais pas me rentrer dans des trucs où en fait, je sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que aujourd'hui, il y a quand même, en tout cas en France, des traitements VIH pour le VIH qui existent, qui permettent aux personnes qui vivent avec le VIH de vivre très bien et d'avoir une espérance de vie. Aussi longue que des personnes séronégatives, et même de devenir ce qu'on appelle indétectable, c'est-à-dire que le virus est tellement en faible quantité dans le corps qu'il est indétectable, et donc qu'elles ne transmettent plus le virus, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir des rapports sans préservatif et qu'elles ne transmettent plus le virus. Donc ça, c'est ce qui est important à dire, et que même aujourd'hui, pour ces personnes qui sont indétectables, elles peuvent prendre un traitement par piqûre, par injection, une fois tous les 2 mois. Donc ça libère quand même, c'est plus un cachet par jour. Maintenant, depuis décembre 2021, je crois, et elles peuvent avoir des traitements par injection. Donc, il y a quand même des progrès dans améliorer le cadre de vie, la qualité de vie des personnes qui vivent avec le VIH. Le vaccin, j'en sais rien, je sais pas.
Okay. Et sur les maladies stigmatisantes, il y a le monkeypox qui est un petit peu... j'ai l'impression que les mêmes causes ont les mêmes effets, en fait, et que les nouveaux laissés pour compte, j'ai l'impression.
Oui,
en fait,
c'est vrai que c'est une épidémie dont on a au final assez peu parlé, qui a touché beaucoup... la communauté gay, et donc qui a essayé de monter au créneau sur cette question-là. Donc nous, c'est vrai qu'on a fait pas mal de prévention, en tout cas, j'ai eu pas mal de questions, mais plus des personnes, des gays escortes à travers du sexe, qui étaient très inquiets sur le monkeypox. Donc nous, c'est quelque chose dont on parle, donc on a permis l'accès à la vaccination pour le monkeypox, pour les personnes qui le souhaitaient.
Parce qu'il y a un vaccin, là.
Oui, il y a un vaccin. Je peux pas t'en dire beaucoup plus, parce que nous, dans les gens qu'on accompagne, il n'y a pas eu de cas de monkeypox, en tout cas déclaré. Donc je peux pas t'en dire plus, mais c'est sûr que, en fait, disons que la question de l'épidémie du VIH nous a appris beaucoup de choses sur la santé, sur la gestion des épidémies, et qu'en fait, c'est à chaque nouvelle épidémie, on fait comme si ça n'avait pas existé, comme si on n'avait pas tiré des leçons du VIH dans les années 80, quoi.
Ouais, donc là, on parle de stigmatisation complètement. On associe une maladie, une communauté à tort. Y a un truc qui est important à rappeler, c'est que Griselidis, c'est aussi un local. vous faites des maraudes, mais les personnes peuvent venir
Dans nos locaux.
C'est super important préciser.
On a des locaux dans le quartier Bonnefoy, d'ailleurs on va bientôt déménager là d'ici un ou deux mois, bon, pas très loin, mais on aura des plus grands locaux, donc ça on est content. Mais oui, déjà les gens peuvent venir dans nos locaux, nous on est ouvert du lundi au jeudi en journée à 10h à 18h, c'est pour prendre du matériel de prévention, les gens peuvent venir n'importe quand, et après il y a des accueils sans rendez-vous. Le mardi après-midi, et puis après c'est aussi possible de prendre des rendez-vous pour avoir un peu plus de temps, mais voilà. Et dans notre local on fait aussi des repas conviviaux, des ateliers, il y a eu des apériputes, donc voilà, des apéritifs entre putes, voilà. Justement dans cette perspective de se renforcer ensemble, en fait, que la communauté se renforce par elle-même. Voilà, donc on propose pas mal de choses dans nos locaux. Puis après, c'est sûr que ça nous permet de travailler. Notamment, moi, je fais beaucoup ce qu'on appelle la médiation Internet. Donc, je vais à la rencontre des personnes qui travaillent sur Internet, j'envoie des messages, j'envoie des colis et tout ça. Et puis là, voilà, il y a nos bureaux dans ces locaux, quoi.
Donc on va rappeler l'adresse, on peut la rappeler.
Oui, tout façon, à fait. C'est public, c'est où ?
C'est public, ouais. C'est où ?
C'est au 10 chemin La Pujade, donc dans le quartier Bonnefoy, c'est à 10 minutes à pied de la gare Matabiau. Et puis voilà, dans un mois ou deux, on va déménager rue Périole, qui est vraiment pas très loin, donc plus derrière la gare et la médiathèque, quoi.
Et là, tu viens de parler d'Internet, une des nouvelles formes plus modernes peut-être de la prostitution, c'est sur le net.
Ouais.
C'est vrai que vous abordez aussi cette activité en comparant avec la rue, en fait, savoir si c'est plus ou moins dangereux.
Oui, ouais. Alors nous, on le dit pas comme, enfin, on l'analyse pas comme ça. Disons qu'on va dire que c'est pas le même travail. Ouais. C'est-à-dire que il y a les avantages et les inconvénients dans la rue, sur Internet. Et puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, la majorité des nouvelles françaises qui vont se mettre à travailler vont passer par Internet parce que c'est plus simple, parce que y a des gens qui n'auraient jamais osé sortir dans la rue, etc. Et après, par exemple, pour des personnes migrantes, la rue, ça peut être plus simple dans le sens où... Alors, il y a des personnes migrantes sur Internet, hein, mais disons que pour être sur Internet, il faut maîtriser le français, maîtriser l'outil informatique et avoir Internet. Donc, ce qui est trois choses qui peut paraître évident pour plein de personnes françaises, mais en fait, qui n'est pas forcément évident pour plein de gens. Donc, en fait, pour des femmes migrantes, et garder aussi leur autonomie, la rue, ça quand même... Voilà, il suffit de maîtriser 2-3 mots de français pour négocier les tarifs, la pratique, mais il n'y a pas besoin de rédiger une annonce ou des choses comme ça. Et donc, ça peut garantir une certaine autonomie, en tout cas pour certaines, et que, en fait, passer sur Internet, en tout cas pour plein de femmes migrantes, ça veut dire aussi passer par des intermédiaires. Donc, trouver des gens qui rédigent les annonces, qui répondent aux clients, etc. Donc, en fait, qui vont devenir des patrons qui imposent certaines conditions. Alors, il y en a avec qui ça va bien se passer, il y en a non, pas du tout, quoi. Donc, elles ont moins de possibilités de choisir leurs clients, on va dire. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Puis, en fait, c'est pas les mêmes choses qui est proposé. Dans la rue, ça va être... Le prix, ça va être à la prestation, à la pratique sexuelle. Et sur Internet, ça va être plus à l'heure, avec des pratiques définies, mais ça veut dire un temps donné. Donc, voilà. Et sur Internet, les clients vont beaucoup plus rechercher ce qu'on appelle... la girlfriend experience, c'est-à-dire un moment de discussion, de séduction, voilà, avec un moment intime de rapport sexuel, mais il y a ce qu'on va appeler du travail aussi social, affectif, qui va être beaucoup plus fait sur Internet, parce qu'il y a tout ce moment de discussion, de séduction, etc. Donc voilà, c'est vraiment deux travails différents. Et nous, on va essayer de faire du lien aussi avec... les travailleurs et travailleuses du sexe via Internet, qui vont être aussi parfois beaucoup plus isolés, parce que dans la rue aussi, parfois les gens travaillent aussi avec leurs amis en communauté, alors que sur Internet, on peut se lancer seul. Mmh. On peut se lancer seul, et vu la stigmatisation de l'activité, des fois, nous, on voit des gens, on est en contact avec des personnes qui travaillent sur Internet, on est les seuls qui connaissent leur activité, c'est-à-dire que personne dans leur entourage ne connaît leur activité. Donc c'est un sacré isolement, quoi.
En tout cas, pour vous faire entendre, l'autre haut-parleur, c'est les manifs. Ouais. Il y a eu celle du 1er décembre avec la journée mondiale de lutte contre le sida, où l'un des slogans marquants, c'était RN égale mort. voilà, reprenons le slogan d'ACT UP en fait.
Ouais, voilà, c'était vraiment une initiative, donc nous on co-organisait, mais c'était vraiment une initiative lancée par ACT UP. Et c'était l'idée, donc là c'était le RN, mais globalement c'était aussi l'idée de dire, bah, en fait, c'est toutes les inégalités qui favorisent l'épidémie. Et en fait, c'est en renforçant les inégalités avec des politiques libérales, des politiques racistes, des politiques LGBTQI-phobes, etc. C'est aussi ces politiques-là qui vont renforcer l'épidémie, ou en tout cas freiner la fin de l'épidémie, quoi. Et donc, il y a eu cette manif-là le 1er décembre. Et puis, nous, là, on va, en fait, bientôt, là, le 17 décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Donc, ça fait quelques années qu'on fait une manif. Donc, cette année, on va faire une manif le 14 décembre. Donc, c'est mercredi prochain,
ouais,
à 18h à Jean Jaurès. On va aller de Jean Jaurès à la place Belfort. La place Belfort, c'est qui se situe en plein cœur du quartier Belfort, qui est le quartier
gare,
traditionnel de la prostitution à Toulouse. Donc en général, voilà, nous, c'est bien pour nous de finir place Belfort. Et cette année, on dénonce donc les violences faites aux travailleuses du sexe, et plus particulièrement les arrêtés municipaux. Donc nous, c'est un mot d'ordre national de toutes les associations de travailleuses du sexe cette année. De dénoncer ces arrêtés municipaux. Et nous, l'idée avec cette manifestation, c'est aussi que ce soit un premier pas vers une lutte contre ces arrêtés, pour créer un rapport de force, en tout cas pour faire un peu de bruit autour de ces arrêtés municipaux qui, vraiment, nous, on le voit tous les jours, qui pourrissent la vie des gens. C'est plus possible, quoi.
Donc le mercredi 14 décembre à 18h,
Jean Jaurès. Voilà.
Je savais pas qu'il y avait une journée mondiale d'ailleurs, ouais, contre les violences faites aux travailleurs, travailleuses du sexe.
Tout à fait. Et je pense qu'il y aurait des manifestations un peu partout en France. Je sais qu'il y en a une à Besançon, il y en a une à Paris, une à Lyon. Voilà. Je vais pas citer toutes les villes parce que j'ai pas encore toutes les infos, mais là, ça fait plusieurs années que plein d'associations comme la nôtre, dans plein de villes de France, organisent au moins un rassemblement, une manifestation, quelque chose à cette occasion-là.
Ok. June, tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'avais, pendant que tu réfléchis, ouais, juste une petite question. Je voulais connaître pourquoi du symbole du parapluie rouge qui revient vraiment. C'est... Ok, j'ai bien fait de poser la
question.
Alors,
c'est un symbole... je pourrais pas... Alors, ouais, si, je peux essayer de répondre. En fait, c'est un symbole mondial, le symbole du parapluie rouge, parce que nous... Il y a plusieurs instances, c'est-à-dire que nous, il y a l'association Grésilidis, on est au sein d'une fédération qui s'appelle la Fédération Parapluie Rouge, qui est une fédération nationale qui réunit toutes les associations de santé communautaire pour les travailleuses du sexe, qui nous permet de faire des échanges sur comment ça se passe dans les autres villes, de faire du plaidoyer, de revendiquer. Et nous aussi, on est au sein d'un réseau européen d'associations de travailleuses du sexe et au sein d'un réseau mondial. Donc voilà, il y a différentes instances. Et il y a la Red Umbrella Foundation, c'est aussi une fondation de parapluie rouge qui est une fondation qui donne pour les associations de travailleuses du sexe. Le parapluie rouge, sincèrement, je pense que la lumière rouge, c'est vraiment aussi ça symbolise les travailleuses du sexe, parce que voilà, on sait que dans les quartiers de travailleuses du sexe, on appelle les quartiers rouges.
Red District.
Voilà, c'est là où quand une lumière rouge est allumée, on sait que la personne est disponible. Donc c'est déjà cette lumière rouge. Et le parapluie, c'est aussi le signe de l'attente sur le trottoir, d'être avec un parapluie, à la fois d'être visible avec un parapluie rouge pour dire ce qu'on fait. Mmh. Et puis c'est vraiment de tapiner sur le trottoir.
Ok. Merci. Pour... Et tu veux rajouter quelque chose?
Non, mais je crois qu'on a fait, on a fait un peu le tour de ce qu'on propose. Non, si, juste pour résumer un petit peu, de dire que nous, en fait, on est une association de santé communautaire, mais on essaye de répondre aux besoins et aux demandes des personnes, quelles que soient leurs demandes et leurs besoins, que ce soit sur des questions administratives, sur des questions de santé, sur des questions de violence, sur des questions... Alors, sur toutes les questions, on essaye de proposer un accompagnement global, parce qu'on pense que c'est justement en décloisonnant tout ça qu'on arrive à ce que les personnes soient accompagnées au mieux. Voilà.
Et pour des problèmes plus spécifiques de droit, il y a un syndicat?
Oui, alors il y a le STRAS, ouais, qui est le syndicat du travail sexuel, qui a été fondé en 2009. Il y a des antennes dans plusieurs villes de France. Alors je crois pas qu'en ce moment il y en ait une à Toulouse. Mais en tout cas, il y a un service juridique qu'il est possible de contacter avec des juristes. Voilà, qui donne des conseils, qui renvoie, qui peut aider. Et après, c'est possible aussi d'adhérer au STRAS. Et donc, il y a des rencontres. Tous les ans, il y a ce qu'on appelle les putains de rencontres qui sont organisées par le STRAS depuis plusieurs années, qui sont l'occasion pour plein de travailleurs du sexe de se rencontrer, d'échanger autour de autour du travail, autour du vécu, de s'entraîner. Voilà, c'est toujours ce truc de se dire se renforcer par la communauté. Et donc pour les travailleurs du sexe, pour qu'elles puissent aller aux rencontres, le STRAS finance les trajets, l'hébergement, etc. quoi. Voilà.
Super, June, merci. On se quitte avec un podcast consacré à votre marraine.
Super, Griselle Disreal.
Ouais, qui est venue, tu m'as dit. Ça.
Qui était venue donc à l'inauguration de l'association en 2000. Elle était venue inaugurer l'association qui porte son prénom.
Écoute, une nouvelle fois, merci pour sa participation, d'avoir accepté l'invitation.
Eh ben, merci beaucoup à toi d'avoir pris tout ce temps, parce que vraiment, c'était aussi chouette d'avoir vraiment du temps pour dérouler tout ce qu'on fait et tout ce qu'on revendique.
Ouais, cool. Merci. Ça sert aussi à ça, le mag. Écoute, à bientôt.
À bientôt, ouais, merci.
Et puis, bon vent, je sais pas.
Bonne manif.
Et si, bonne tisane et bonne manif, bien
surtout,
sûr.
Surtout.
Salut.
Salut.
Ciao.
Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour.
Se faire baiser sous peine de mort. Hein. Tu sais que si on baisse pas, on crève. Hein. Et il y en a combien qui crèvent obscurément, inutilement, sans même s'en douter. Oh les pauvres, hein. ça m'arrache les tripes. Moi. C'est pas à nous que ça arriverait. Hein.
Jamais.
On baisera même dans nos tombes, hein, Mohamed. Dans nos tombes. On baise en prison, nous. On baisera sur nos lits de mort. Exactement.